Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce sujet de discussion qui aujourd'hui s'intéresse à la situation des personnes bègues en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le bégaiement est un trouble de la parole qui se caractérise par l'interruption, la répétition ou l'hésitation à prononcer un mot. Pour aider à la sensibilisation sur ce trouble du langage qui touche plus de 70 millions de personnes dans le monde, selon l'association française Parole Bégaiement, nous sommes avec en studio Djadji Luc Gervais. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le président de la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues de Côte d'Ivoire.
C'est ça.
FENOPSI.
C'est ça.
D'accord. Nous serons également, mais cette fois en ligne, avec Jean-Philippe Bocco, orthophoniste, par ailleurs vice-président des orthophonistes de Côte d'Ivoire. Et puis l'artiste ivoirien Kadjim, rappeur de renom, affecté par ce trouble de langage, partagera avec nous son témoignage. Et voilà, et Luc Djadji, vous êtes, rappelons-le, le président de la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues de Côte d'Ivoire. C'est une association qui a pour but la valorisation des personnes en situation de bégaiement, leur insertion socio-professionnelle, tant dans le privé que dans le public. Dites-nous en plus.
Ok. Je tiens tout d'abord à remercier Radio Espoir
pour la radio de la paix
pour l'honneur qu'il nous a fait et puis présenter un tant soit peu mon organisation. Au fait, la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues en Côte d'Ivoire est une fédération qui regroupe en son sein 4 associations. À l'origine, il y avait la Ligue ivoirienne contre le bégaiement. SOS Bèguement et l'association pour la promotion des bègues en Côte d'Ivoire. Ce sont ces 3 associations qui forment la fédération. Et chemin faisant, en 2020, nous avons mis en place l'association des femmes bègues de Côte d'Ivoire.
D'accord. Merci. En tout cas, on aura le temps de parler de vos actions dans le déroulé. On vous remercie en tout cas d'avoir fait l'effort de vous déplacer pour venir ici en studio. On va revenir en tout cas avec vous juste après Jean-Philippe Bocco que nous allons retrouver maintenant. On rappelle que c'est un orthophoniste et il est par ailleurs vice-président des orthophonistes de Côte d'Ivoire. Alors, Jean-Philippe Bocco, l'orthophoniste, en deux mots, c'est qui ?
Alors, l'orthophoniste, c'est un professionnel de la santé qui va s'occuper particulièrement du langage de la communication chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte. Donc, toutes les personnes qui vont présenter des difficultés à parler, à communiquer, notamment le bégaiement, par exemple, vont être pris en charge par l'orthophoniste. Quand on rentre dans le système de santé, celui qui prend en charge tout ce qui est problème de communication des langages est l'orthophoniste.
D'accord. Vous avez parlé de bégaiement à l'instant. Nous parlons aujourd'hui de la situation des personnes bègues en Côte d'Ivoire. Alors déjà, quelle est la définition du bégaiement ?
Le bégaiement, c'est un trouble de la parole qui va se manifester par la répétition saccadée d'une syllabe et l'arrêt involontaire du début des mots.
Est-ce qu'on a des chiffres concernant la Côte d'Ivoire ?
Alors, concernant la Côte d'Ivoire en matière de chiffres, on n'a pas des statistiques sur le nombre de personnes qui bégaient. Cependant, on sait que ce trouble est prédominant. Il est prédominant pourquoi ? Parce que il y a une recherche de Joseph Mongalo et de Thérèse. Ce sont des scientifiques qui ont fait une étude en Côte d'Ivoire sur les troubles d'apprentissage publiés en 2014. Ça a montré que les troubles qu'on rencontre le plus à l'école sont les troubles du bégaiement. On a les troubles du bégaiement, on a les troubles d'apprentissage, comme on dit la dyslexie, la dysorthographie. Donc, avec cette donnée-là, on pourrait éventuellement dire que le bégaiement, on le rencontre beaucoup plus en milieu scolaire.
Quelles sont les causes du bégaiement ?
Alors, jusqu'à présent, on n'a pas de causes médicales connues. On connaît quand même les facteurs qui déclenchent. Parce que pour les causes, on a trouvé parfois une sorte d'hérédité. Donc les parents qui bégaient sont susceptibles d'avoir des enfants qui bégaient. Mais aussi, dans les familles dans lesquelles il n'y a pas de bégaiement, mais l'enfant ou les enfants bégaient. Donc vous voyez, on n'a pas réellement aujourd'hui de cause qui explique l'apparition du bégaiement. Donc on connaît aujourd'hui quand même les facteurs de risques et les facteurs qui peuvent aggraver le bégaiement.
Qui sont notamment ?
On peut avoir les facteurs environnementaux, par exemple. Donc une pression, un stress peut venir créer donc, le bégaiement. On peut même avoir aussi des maladies d'ordre neurologique, hein, donc le déficit de la substance blanche, mais on n'a pas réellement la cause même du bégaiement. Donc on sait que dans l'environnement dans lequel l'enfant est, un environnement qui est stressant, un environnement où les parents donnent pas comme ça la parole à l'enfant, ou quand il a la parole, il est stressé, parle vite, allez, dépêche-toi, on t'écoute. Ça peut aggraver donc, la situation de parole de l'enfant.
Est-ce qu'on peut dire que le bégaiement est un handicap?
Oui, le bégaiement est un handicap parce que pour le concours au niveau national, on demande par exemple des tests de non-bégaiement. Donc si vous voulez faire de l'enseignement et que vous êtes bègue, évidemment, vous ne pourrez pas faire de l'enseignement. Donc vous voyez que déjà, ça handicap. Au-delà de cet exemple, vous avez des personnes qui, le bégaiement, a fait qu'elles n'ont pas pu terminer leur cursus, ont abandonné l'école parce qu'il y avait tellement de moqueries et tout ça. Ils n'ont pas pu montrer leurs connaissances dans leur milieu de travail parce que le bégaiement fait que ça se passe une communication orale. Ces personnes-là se sont isolées. Donc le bégaiement, c'est un handicap.
D'accord, je pense qu'on aura le temps de mieux creuser quand on va parler des conséquences. Mais dites-nous, comment est-ce que le diagnostic du bégaiement se fait?
Alors, quand le patient arrive et qu'il pose le problème, donc le motif de consultation est un bégaiement, on va faire ce qu'on appelle une anamnèse. Donc, on va poser des questions hein, à la famille pour comprendre dans quel contexte ce trouble de parole-là se situe, les manifestations et tout ça. On va aussi s'intéresser à l'environnement dans lequel l'enfant vit. Donc, on va appeler ça, par exemple, l'histoire du bégaiement. On va rechercher les facteurs aggravants donc qui peuvent venir, pendant la rééducation, compliquer encore la prise en charge de l'enfant. On va essayer de, avec des tests, on a des grilles d'évaluation, des tests et tout ça, qui vont nous aider, par exemple, à évaluer lorsqu'il est en train de parler, de nous raconter, par exemple, un récit, etc. On va essayer de déterminer si le bégaiement il apparaît beaucoup plus par des perturbations en début, etc. Est-ce qu'il y a des tapotements, il clignote des yeux. Tous ces éléments-là vont constituer l'évaluation d'une personne qui bégaye. Et après, on va sortir avec un diagnostic. Enfin, on va mettre en place un projet thérapeutique pour aider la personne à mieux communiquer. Voilà, parce que le bégaiement, ça ne se guérit pas. C'est pas une maladie. Donc, il n'y a pas de remède, de comprimé, etc. pour aider à guérir du bégaiement. Donc, c'est vraiment des techniques qu'on va montrer à la personne, etc. Ça va dépendre si c'est un enfant. Ça sera plutôt des séances autour de jeux, etc. etc.
Alors, justement, parlant d'enfants, est-ce que pris en charge tôt, on peut corriger ce trouble chez l'enfant? Je veux dire, est-ce qu'il pourra parler de manière assez fluide?
Il faut dire que quand l'enfant se développe, pendant ce processus de développement, à 3 ans par là, il y a des enfants qui vont parler avec des hésitations. Et ces hésitations-là peuvent apparaître parce que l'enfant n'a pas tout le lexique. Donc, de la langue qu'il pratique, c'est le français, par exemple, il n'a pas tout le récit de la langue française. Donc, il y a des phrases qu'il ne peut pas, qu'il a envie d'exprimer, mais il n'a pas tous les mots pour exprimer. Donc, on va avoir des hésitations. Donc, on va avoir ce qu'on appelle le bégaiement développemental. Un bégaiement qui va apparaître à 2 ans, 3 ans, et puis qui va, à 4 ans, disparaître. Et puis, à côté de ce bégaiement développemental, on va avoir un bégaiement, lui, il ne va pas disparaître. Il va rester jusqu'à 5 ans, 6 ans, et lui va nécessiter donc une prise en charge. Donc, quand les parents viennent plus tôt en consultation, par exemple, et quand ils viennent à 3 ans, on essaie d'évaluer pour comprendre, on va dire, le bégaiement, donc la sévérité et tout. Et si on estime qu'il y a un niveau de lexique qui pourrait expliquer donc le bégaiement, on peut laisser l'enfant en observation pour faire quelques séances et puis l'enfant repose. Éventuellement, si dans la famille, il y a des personnes bègues et tout ça, c'est des facteurs de risque, donc on garde l'enfant et on s'assure qu'on n'est pas en face d'un bégaiement pour permettre justement de prendre en charge plus tôt si c'est un bégaiement-là, de prendre, c'est pas développemental, que c'est un bégaiement qui va s'installer, de prendre en charge. Et quand on prend en charge plus tôt, on a beaucoup plus de chances par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas eu de séance, va développer lui-même ses propres moyens et puis à un moment donné est bloqué. Si il n'est pas, ça touche, parce que dans le bégaiement, on a une atteinte de l'estime de soi. Et bien, si l'estime de soi est touchée, vous allez voir des gens qui s'isolent, qui vont se mettre seuls dans un coin, qui vont refuser de participer en classe. Et puis, ça va les suivre comme ça jusqu'à l'âge adulte. On va avoir des personnes adultes qui ne vont pas prendre la parole quand ils sont dans des séminaires, ne vont pas accepter de présenter une communication, etc. De peur que tout le monde sache que la personne bègue et qu'on se moque d'elle. Donc, vous voyez déjà que quand on fait la prise en charge plus tôt, à la fois on travaille sur la parole, on accompagne les parents pour développer des gestes hein, qui vont permettre à l'enfant de s'exprimer de manière élevée, hein, Et puis, éventuellement, on va anticiper tout ce qui est du retrait social, etc. Et tout.
D'accord. Est-ce qu'il existe différents types de bégaiement?
Oui, il existe différents types, notamment le bégaiement clonique, où on va répéter en début de mot, et puis le bégaiement tonique, qui est plus dur, on va se tapoter et tout ça. Et puis on peut avoir le bégaiement mixte. Donc dans les deux, on a tonique et clonique. Donc l'enfant, en parlant, ouvre la bouche, bonjour, voilà. Donc oui, c'est un enchaînement à la fois de blocage, d'ouverture, on n'a pas parole, et puis après, il commence à parler, et puis il y a encore des répétitions qui se suivent et tout ça. Donc on peut avoir ces deux types de bégaiements qui sont ensemble. Donc on appelle le bégaiement mixte. Donc on a le bégaiement tonique, on a clonique et on a tonico-clonique, donc qui est mixte des deux.
D'accord. Vous en avez parlé tantôt. Quelles sont les conséquences du bégaiement?
Alors, les conséquences, je vais les définir selon d'abord le milieu social, l'intégration scolaire et puis l'insertion professionnelle.
D'accord.
Au niveau social, on peut avoir un enfant ou une personne qui va se retirer, donc qui va développer moins de relations avec les autres, avoir moins d'amis. Pourquoi? De peur qu'on découvre qu'il bégaye et qu'on se moque de lui. Parce que bien évidemment, quand on entend les personnes bégayer autour de nous, le premier réflexe qui vient, c'est de rire. Parce que éventuellement, les synesthésies, donc la façon de cligner des yeux, les tapotements, la façon de répéter le mot, eh bien parfois, ça fait rire. Mais ces personnes-là ne vont pas supporter, donc elles vont se retirer, elles vont développer moins de relations et tout ça. Et donc même dans la famille, on va avoir des enfants qui vont, ou des personnes adultes, qui vont moins parler, qui vont avoir moins d'interaction avec les autres. Donc vous imaginez déjà, au niveau social. Au niveau de l'éducation, vous allez avoir des personnes, comme j'ai dit au départ, des élèves qui ont arrêté l'école, parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Parce que dans le bégaiement, on a le léger, on a différents types de sévérité. On a léger, modéré et sévère. Donc pour quelqu'un qui a un bégaiement qui est sévère, vous imaginez que c'est très compliqué de tenir un discours sans perturbation. Donc les moqueries, les jugements, etc. vont faire que cette personne-là va à un moment donné être limitée dans son parcours scolaire. Donc ne pas avoir le courage de continuer, etc. Donc vous voyez, au niveau scolaire, déjà, ça crée ça. Ça va aussi handicaper l'enfant, par exemple, dans certains matières, telles que l'oral. Il faut faire une poésie, par exemple. Il faut passer par un exposé en terminale ou à l'université. Vous voyez, pour quelqu'un qui bégaye, eh bien, ça va être donc une difficulté supplémentaire. Ensuite, au niveau de l'insertion, je vous avais dit qu'au niveau national, pour avoir accès à certains corps de métier, notamment l'enseignement, il faut faire un test de non-bégaiement. Donc, si vous bégayez, éventuellement, vous ne pouvez pas avoir accès à ce corps de métier. Donc, vous voyez qu'au niveau déjà social, vous êtes déjà handicapé. Si vous devez travailler, par exemple, dans des call centers, et que vous bégayez, éventuellement, ça ne sera pas possible, ça sera très compliqué pour vous de pouvoir avoir accès. Donc, au niveau social, il y a des activités dans lesquelles la personne ne peut pas avoir accès parce qu'à cause de son bégaiement. Ensuite, quand elle a eu un travail, le bégaiement peut l'empêcher, par exemple, de pouvoir tenir des communications, faire des réunions avec des personnes où elle doit exposer, présenter un projet, etc. Donc, vous voyez, donc la difficulté fait que la personne va se retirer. Elle va moins participer, va donner ses idées à d'autres personnes et tout ça, et elle va rester en retrait. Donc, quand on prend au niveau social, au niveau de l'éducation, au niveau de l'insertion professionnelle, eh bien, le bégaiement va impacter la vie de toutes ces personnes, personnes bègues.
D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'on doit faire pour aider les personnes atteintes de bégaiement? Je veux parler de l'entourage, la famille, les proches.
Alors, la première chose à faire, quand on a un enfant qui bégaye, eh bien, ça ne vaut pas la peine de lui donner l'eau de mortier. On
fait ça. Hein, pourquoi l'eau de mortier?
On dit qu'il faut avaler et tout ça, et puis ça va régler le bégaiement. Non, ce n'est pas le cas.
D'accord.
Il faut déjà consulter un orthophoniste.
Je vais rebondir rapidement sur ce point. Oui. Quand vous dites qu'il faut consulter un orthophoniste, est-ce que les orthophonistes aussi sont accessibles en termes de coûts?
Alors, en termes d'accessibilité, je parlerai de d'abord accessibilité géographique et puis accessibilité en termes de coûts. Donc, de manière géographique, il faut dire que les orthophonistes sont concentrés à Abidjan. Ça, c'est le premier point. Dans les régions, donc Yamoussoukro, Boaké, etc., on a quelques collègues, dont un à Yamoussoukro et un à Boaké. La raison...
Combien d'orthophonistes on peut avoir en Côte d'Ivoire?
Alors, nous sommes 24 orthophonistes immatriculés par la direction des établissements et professions de la santé. Voilà, direction des établissements professions privées de la société. Et donc, vous imaginez les INCAS, on est tous d'abord en profession libérale. Donc, on est au privé. Et donc, en termes de coûts, comme ce sont des structures privées et que les assurances ne couvre pas toujours, la charge donc revient aux parents. Et donc, ce qui est à payer, je dis 100%, est à payer par les parents. Et donc, finalement, ça revient plus coûteux. Et comme ça doit, ce sont des prises en charge qui durent dans le temps, eh bien, ça devient plus difficile pour les parents de faire face à les charges qui vont, à les charges donc de soins, qui vont durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Donc, vous voyez, c'est ce qui vraiment explique ce problème. Mais avec la volonté de l'État, ces dernières années, on a pu avoir donc ces 7 orthophonistes qui sont dans les hôpitaux, hein, notamment le CHU de Trècheville, de Cocody, l'hôpital général d'Abobo, de Benjeville, de Pougon-Attier. Vous avez des orthophonistes. Il y a l'hôpital psychiatrique de Boaké. Vous avez des orthophonistes. L'État aussi a décidé de former les orthophonistes au sein donc de l'École nationale de formation des agents de la santé à l'INFA. Donc, ils sortiront très bientôt. Donc, ils viendront également étoffer donc résoudre en fait le besoin qu'on a sur le terrain.
D'accord. Quel mot en guise de conclusion en termes d'éducation et de sensibilisation sur le bégaiement pour vous qui êtes spécialiste?
Alors, en conclusion, je dirais, quand on a un enfant qui commence à bégayer, la démarche à faire, c'est de venir consulter. Voilà, de venir consulter son orthophoniste pour avoir un avis. Est-ce que c'est un bégaiement qui s'installe ou c'est autre chose? Ensuite, on peut avoir des recommandations. Parce que quand on vient consulter l'orthophoniste, on fait des recommandations. Recommandations à la fois pour la maison, recommandations pour l'école. Et si c'est un professionnel, une personne adulte, des recommandations pour le service, etc. De sorte à pouvoir vivre pleinement sa profession dans le cadre dans lequel il est. Donc la première chose, c'est de consulter. La deuxième chose, c'est de sensibiliser. C'est de sensibiliser. Et quand je dis sensibiliser, mais c'est sensibiliser tout le monde. Donc les acteurs du système de l'éducation, les acteurs de la fonction publique, du privé, etc. C'est de sensibiliser toutes les couches sociales. De sorte à pouvoir développer des attitudes bienveillantes envers les personnes bègues. Et puis ensuite, les personnes bègues elles-mêmes, de faire ce qu'on appelle des guidances avec les personnes bègues, les guidances avec les parents d'enfants bègues, guidances parentales, etc. Pour les aider à développer leur confiance en elles, parce que c'est l'élément clé qui permet de faire face quand il y a des situations de moquerie, des situations désagréables, que ce soit à l'école, dans notre environnement social ou au niveau d'un corps professionnel. Donc voilà un peu ce que je voulais en conclusion.
À l'instant, Jean-Philippe Bocco, qui est orthophoniste, par ailleurs vice-président des orthophonistes de Côte d'Ivoire. Nous lui disons merci pour son intervention. Retour en studio avec Luc Djadji. Vous êtes le président de la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues en Côte d'Ivoire. Dites-nous, quelle est la situation des personnes bègues en Côte d'Ivoire?
Merci bien pour cette question, elle est si belle. Il faut dire qu'au niveau des personnes qui bégayent en Côte d'Ivoire, le grand mal, c'est le manque de statistiques. Voilà. L'absence de statistiques a fait que nous, en tant que leaders d'organisation, en 2014, nous avons mené des démarches auprès de la direction de la santé pour leur dire que la personne qui bégayait n'est pas prise en compte au niveau du système sanitaire. Et donc, nous sommes venus poser faire un plaidoyer pour que cette situation-là soit améliorée. Et le directeur de la santé d'alors nous a, dans un premier temps, présenté ses excuses, il a reconnu les faits et ensemble, il nous a demandé qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Nous, en tant qu'association, nous avons proposé de faire une étude statistique. Bon. L'étude statistique, si on devait faire l'étude statistique au niveau national, ça allait être coûteux. Et donc, ensemble, nous avons décidé de mener l'étude à une échelle plus petite. Et donc, ils nous ont orienté vers le programme national des maladies non transmissibles. Et avec ce programme, nous avons initié une toute petite enquête statistique sur le bégaiement et nous avons ciblé le milieu scolaire. Pourquoi le milieu scolaire? Parce que la cible, elle est fixe. La cible, elle est accessible et on peut facilement avoir des données fiables. Et donc, l'étude a été faite dans la commune de Koumassi avec l'appui de l'ADREN Abidjan 2. Et au terme de l'étude, l'étude a montré que 18,75% des élèves étaient porteurs du handicap du bégaiement. Et la réception de cette étude a été faite à l'Institut national d'hygiène publique à Tréville. Et nous avons extrapolé, imaginez avec le tout petit, nous avons interviewé 5076 élèves. Et dans ce lot-là, 18,75% étaient porteurs du handicap du bégaiement. Donc imaginez l'extrapolation au niveau national. Et au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ils ont des documents annuels qu'ils appellent les statistiques de poche. De 2018 jusqu'à l'heure actuelle, le bégaiement est un handicap dominant en milieu scolaire. Et les statistiques de poche de 2023, parce que pour 2024 n'est pas encore disponible, 2023 atteste que le bégaiement est l'handicap le plus dominant en milieu scolaire. Mmh. Voilà. Donc c'est un peu le point. Mmh, voilà, le point de la situation du bégaiement en milieu scolaire. C'est pourquoi dans toutes nos actions, nous demandons à ce que le bégaiement, le dépistage du bégaiement soit précoce au niveau du système, au niveau de l'éducation. Parce que les cas d'abandon dus au bégaiement, vraiment, c'est, pour le moment, comme il n'y a pas de données, on ne quantifie pas. Sinon, il y a beaucoup de cas d'abandon du fait du bégaiement.
Mmh. Et quelles sont les difficultés rencontrées par les personnes bègues en Côte d'Ivoire?
Les difficultés rencontrées sont à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de l'éducation. Et quand l'enseignant, quand il rentre en classe, ses cours sont dans un chrono horaire. Il n'a pas le temps de s'occuper de l'élève qui bégait. Parce que l'élève qui bégait est inclus dans la globalité. Et cette globalité fait que quand l'enseignant arrive et qu'il voit qu'il va interroger un élève qui bégait, qu'il va lui prendre 5 minutes, 3 minutes, alors que le temps, par exemple, pour l'exploitation de test est de 59 minutes, il préfère ne pas interroger l'élève. Et de plus, l'enseignant n'est pas outillé à faire face à un cas d'élève qui bégait. Normalement, un élève qui bégait, sa difficulté, c'est la prise de parole. Il faut limiter sa prise de parole. L'enseignant, par exemple, peut poser les questions fermées, où l'élève n'aura pas à faire de phrases. On dit, bon, si on te pose la question, que tu vois que tu n'arrives pas à... Par exemple, tu lèves la main, si c'est oui, ou bien tu fais un geste ou c'est non. Au cas où l'élève peut, par exemple, a dit oui ou non, bon, on pose les questions fermées. Mm-hmm. De manière à circonscrire sa prise de parole. Et puis l'enseignant doit pouvoir s'imposer dans sa classe pour ne pas que l'élève qui bégait soit frustré. Voilà. La frustration, ça va aller de moquerie. Et ça va faire que l'élève dans la classe, il aura une tendance à l'isolement. Il ne pourra s'exprimer que peut-être à la récréation ou avec ses amis, il pourra s'amuser. Mais une fois qu'il rentre en classe, il sera mieux comme une cape. C'est pourquoi dans nos actions de sensibilisation, nous disons aux enseignants, lorsque vous voyez un élève dans la classe qui a tendance à se cacher ou même à ne pas lever la main, posez-vous des questions. Qu'est-ce que cet élève a? Approchez-vous de lui et puis essayez de comprendre ses difficultés. La majorité des cas est que ces élèves-là sont des élèves qui bégaient.
Et au niveau du volet socio-professionnel?
Maintenant, au niveau du volet socio-professionnel, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Surtout au niveau de l'insertion sociale. Moi-même, je suis un cas, j'ai vécu ce cas-là. Et c'est quelqu'un qui a pris mes dossiers en main et qui a bien voulu m'aider, qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis inséré. J'ai fait le doctorat. Mais je vous assure, en son temps, on parlait de diplôme approfondi. Pour mes amis qui me connaissent, qui ont participé à ma soutenance, je n'ai pas pu placer un mot. Lors de ma soutenance, il y avait 15 minutes de présentation. Pendant les 15 minutes, je n'ai pas pu dire un mot.
Pourquoi? Parce que vous étiez stressé?
Non seulement il y a le stress, mm-hmm. et puis mon bégaiement en ce temps-là était très très fort. Mes enseignants même souvent même ils se demandaient comment est-ce que j'arrivais à évoluer. Et même avant que je rentre dans la salle, ils s'étaient déjà entendus pour dire que ah, cet élève-là, c'est un cas exceptionnel. Et j'ai été évalué sur la base de mon document, de mon mémoire et de ma note à l'écrit. Et c'est sur cette base-là que j'ai été évalué et je me suis inscrit pour le doctorat. Mais 3 mois avant ma soutenance, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais dire. Comment est-ce que j'allais présenter mon mémoire? Ça, je ne savais pas. Je ne faisais que prier. Et à une séance de répétition, j'ai fait une prière et je me suis dit, bon, si j'arrive, ne serait-ce qu'à dire 2 phrases sans bégayer, je me ferai fort de faire la présentation. Je vous assure, ce jour-là, je ne sais pas si ce sont les anges qui étaient là, j'ai parlé de 15h à 17h sans bégayer. Et quand j'ai fini, mon directeur de moi a dit, bon, quelqu'un qui ne parle pas, s'il a pu parler 2 heures de temps sans bégayer, pardonnez, nous ne lui posons pas de questions, allons à la maison. Et à la suite de ça, j'ai eu plus confiance en moi. J'ai eu plus confiance en moi. Et c'est cette confiance-là qui a fait que le jour de la présentation de mon mémoire, j'ai pu présenter mon mémoire sans problème. À tel enseigne que les enseignants m'ont dit, enfin, nous avions cru que cet étudiant était une personne qui bégait, mais avec ce qu'il vient de nous démontrer, ce n'est pas quelqu'un qui bégait. Ça, ce n'était qu'une étape. La seconde étape était que je passe devant les jurys pour le recrutement. J'ai fait le test de Dalois. J'ai fait le test de Mans. Je n'ai pas pu être recruté. Parce que ce que le jury a détecté pendant ma présentation était le bégaiement. Et pour ça, je n'ai pas pu être recruté. Pourtant, on fait les mêmes écoles avec les autres. Il n'y a pas de barrière. Et quand on arrive à ce niveau-là, on va nous dire, bon, toi, il faut faire comme ça, toi, il faut faire comme ça, toi, il faut faire comme ça. Mais quand on te dit de faire comme ça, est-ce que tu as l'appui nécessaire pour le faire?
Rien. Donc l'insertion, le bégaiement est un frein pour l'insertion socio-professionnelle et même volet scolaire aussi.
Si, je vous donne un cas. Il y a le cas d'un des nôtres qui nous a fait tellement mal. Seulement que ce dernier aussi, il s'est pris un peu tard. Il est venu à l'association un peu tard. Notre ami, c'est Sindou. Sindou est un citoyen ivoirien qui a été admis de façon brillante au concours de gendarmerie. Il a fait 1 an de formation. Il était dans la formation à Torogué. Et un matin, au cours d'un rassemblement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le formateur lui a demandé, lui a posé une question. Ce dernier-là, pendant plus de 15 minutes, il n'a pas pu parler. Il n'a pas pu répondre à la question du formateur. Il a été envoyé à l'école de gendarmerie. Aujourd'hui, Sindou est au village. Il a été exclu de la gendarmerie. Ces cas-là, nous en avons beaucoup. Et nous avons fait toutes les démarches pour que ce dernier, son cas soit étudié. Mais il n'y a pas eu d'oreille attentive. Sindou, aujourd'hui, il est au village.
Est-ce que les difficultés sont pareilles qu'on soit homme ou femme concernant le bégaiement?
Les difficultés sont pareilles. Il y a, bon, peut-être que pour la femme, bon, peut-être, comme, bon, chacun, on pourrait dire que c'est, bon, on pourrait lier ça peut-être à la chance. Tout dépend de la sensibilité du recruteur qui est devant toi. Présentement, actuellement, nous avons deux cas. Deux étudiants bègues qui ont soutenu leur doctorat. La dernière fois, j'étais avec l'un d'eux. Il m'a dit qu'ils sont deux. Ils ont déjà fait le premier test de recrutement de 2023. Ça n'a pas marché.
D'accord. Alors, si vous le permettez, on va rapidement retrouver notre interlocutrice au téléphone. D'accord. On souligne qu'elle souffre de bégaiement et elle fait partie de la phénopsie. Et c'est Ayébié Magne Elisabeth. Bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, Ayébié Magne Elisabeth, nous sommes en train de parler en ce moment de la difficulté rencontrée par les personnes bègues en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier concernant les femmes sur les difficultés?
D'accord, merci. Il faut dire que je suis la présidente des femmes bègues de Côte d'Ivoire. Le bégaiement atteint plus les femmes parce que après l'enquête menée à Kumasi là dans le milieu scolaire, il faut dire que les femmes étaient plus atteintes du bégaiement que les garçons. D'accord. Mais comme pour les femmes sont plus sensibles à la honte. Donc du coup, les femmes sont dans leur case, si je peux m'exprimer ici. Voilà, elles sont dans leur case. Donc, du coup, le bégaiement s'accentue plus. Parce qu'il faut dire que pour le bégaiement, plus tu as honte et plus encore, le degré de bégaiement s'augmente. Donc, c'est ce qui s'exprime chez les femmes. Parce que les femmes ont plus honte. Rares sont les femmes qui ont le courage de prendre la parole en public à cause du bégaiement. Donc, du coup, cela s'accentue plus chez les femmes.
Et c'est ce qui vous revient au niveau de l'Association des femmes bègues de Côte d'Ivoire?
C'est ça.
D'accord. Et si vous aviez un appel à lancer justement aux femmes qui souffrent de bégaiement, quel serait-il?
Vous dites.
Si vous aviez un appel à lancer aux femmes qui souffrent de bégaiement, quel serait-il?
Bonjour, je voulais leur dire que le bégaiement s'améliore, comme le président l'a dit, qu'avant son bégaiement était plus accentué. Pareil aussi pour moi, mon bégaiement était plus accentué. Donc ce que je me voulais dire, c'est de ne pas avoir honte. Ce n'est pas facile, mais il faut faire un défi de tout ça. Bannir la honte de son quotidien. Et pour celles même qui sont à l'écoute, qui ne sont pas encore adhérées à la Fédération des personnes bègues, je les invite, mais plus précisément les femmes, je les invite à venir s'intégrer afin que ensemble on puisse surmonter cet handicap. Voilà. Donc c'est ce que je voulais faire passer comme information.
D'accord. Ayébié Magne Elisabeth, merci pour votre intervention.
Merci.
On rappelle que vous êtes la présidente de l'Association des femmes bègues de Côte d'Ivoire.
C'est
ça. D'accord, encore merci.
Merci aussi à vous.
Au retour en studio, aujourd'hui, rappelons-le, nous parlons de la situation des personnes bègues en Côte d'Ivoire. Et on va tout de suite retrouver pour son témoignage l'artiste ivoirien Kadjim, affecté par ce trouble du langage. Il était l'un des invités d'une émission télévisée sur le bégaiement. Kadjim raconte son expérience et comment il a réussi à surmonter les difficultés liées à ce trouble.
Bonjour, c'est bien qu'on puisse parler d'un sujet grave parce que le bégaiement c'est un mal du silence et beaucoup de gens quand on en parle se crispent, qu'ils soient bègues ou pas, parce que on ne sait pas trop par quel bout prendre la chemin. Mais bon, moi par la force des choses je suis devenu une sorte de porte-étendard de la cause. J'ai jamais été, on va dire, très complexé par cela. Peut-être que j'ai eu la famille qu'il fallait, j'ai eu les milieux qu'il fallait. J'ai l'habitude de dire que quand David a rencontré Goliath, il n'a pas vu un obstacle. Il a vu un moyen de déployer ses ailes et de prendre son envol, quoi. Et moi, mon bégaiement, c'est peut-être la façon que le Tout-Puissant a trouvé pour que je puisse aller encore plus haut. Je chante parce que j'ai découvert qu'en chantant, on bégayait pas. Il y a des gens qui ont eu par exemple, une épreuve dans leur vie. Il y a des gens qui ont eu des accidents qui sont devenus bègues. Il y a des gens qui ont vécu une émotion. Il y a des gens qui ont vécu des séparations qui les ont rendus bègues. Il y a de l'émotion, il y a de la gestion de la respiration. Il dit qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, une hyper-émotivité peut expliquer cela. Je n'ai jamais pris ça comme un handicap. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de se moquer de moi, mais ils n'avaient que ça. Dans tous les autres domaines, j'étais au-dessus d'eux. Moi, je pense qu'il est important que les gens aient la patience d'écouter les bègues. Parce que les gens, quand tu es dans un environnement où tu as déjà du stress et tu es dans un environnement qui t'oppresse, ça aggrave les choses. Et donc, c'est au nom de cela que la plupart des actions qu'on essaie de mener sont des actions au profit des enfants. Parce que s'ils arrivent à bénéficier d'un environnement qui est plus doux, plus compréhensif, plus patient, je pense qu'il y a vraiment possibilité de passer ce trouble. Moi, je parle de l'enfance parce que c'est un moment important. Le monde des enfants est un monde cruel. Quand ils se moquent, c'est sans limite. Et c'est là que ça commence. Il y a beaucoup d'enfants qui s'isolent, qui s'enferment. Et puis, à la fin, voilà. Aujourd'hui, j'essaie d'expliquer un certain nombre de choses parce que moi, ma vie n'est pas linéaire du tout. Je ne vais pas faire ma psychanalyse ici, mais j'ai quitté très tôt la maison. Moi, je suis parti à 5 ans de la maison. Je suis revenu, j'avais pratiquement 18 ans. J'ai eu un parcours. Mais avant même de partir, déjà, je pense que j'avais déjà des troubles de l'élocution. Et puis, ceux qui me connaissent, quand ils me voient aujourd'hui, ils sont morts de rire. Ils se disent, mais c'est pas possible. J'arrivais pas à le faire. Je suis peut-être la une preuve vivante que c'est possible de corriger ce trouble, d'aller au-delà de ce stade primaire, on va dire, du bégaiement, parce que je me suis entraîné à ça. Il y a des activités pour ça. Lire à voix haute, ça aide énormément. Le vrai avantage de la lecture, c'est que ça crée la complicité. Si on parle, par exemple, d'un enfant, ça va créer la complicité entre le parent et l'enfant. Il y a un petit exercice qu'on aime faire, c'est que on prend le livre, l'enfant lit une page et l'adulte lit une page. Et il se passe comme ça le livre et ça crée de la complicité entre eux et ça met l'enfant en confiance pour parler. Ensuite, il y a le chant. Si vous pouvez inscrire l'enfant dans une chorale, dans une troupe de chant, même le théâtre, ça aide. Partout ouais. Où on gère sa respiration parce que il y a un rythme à garder. Et c'est ce qui fait que à force de pratique, l'enfant commence à retrouver de la fluidité. Parce qu'à partir du moment où tu t'énerves, tu as de moins en moins la faculté de parler de façon fluide. Donc, quand tu dois t'exprimer en public, tu sais que le stress va monter. Il faut que tu te conditionnes à être le plus calme possible, à respirer, à ne pas t'énerver parce que tout ça concourt à rendre ton élocution difficile. Et donc, je veux dire, il ne faut pas croire que quand on souffre de bégaiement, on est condamné. Non. J'ai été secrétaire général d'association dans des lycées où les classes allaient de la 6e à la terminale. Moi, j'étais en 6e. J'ai l'habitude de dire aux gens que moi, je suis un enfant des associations. Ce que je suis aujourd'hui, c'est les associations, que ce soit au lycée, j'étais le président du club d'Espagnol, à l'université, j'étais secrétaire général du mouvement universitaire du rap. J'ai été de tout temps dans des structure où il fallait prendre la parole. Peut-être que c'était mon exercice. Le chant, c'est l'exercice suprême. Parce que quand on chante, on ne bégaye pas.
Comment fais-tu pour ne pas m'entendre? Comment fais-tu pour ne pas comprendre?
La Voix du Ciel, extrait de l'album éponyme de Kajim, sorti en 2002. Rappelons que vous suivez à mes auditeurs le sujet de discussion aujourd'hui axé sur la situation des personnes bègues en Côte d'Ivoire. Et avec Kajim, nous sommes pour son témoignage sur le sujet, puisqu'il est lui-même affecté par ce trouble de langage. Son appel a lancé pour terminer.
Quand on parle de trouble ou de handicap, il faut que les gens acceptent de se déniaiser un peu et qu'ils acceptent que on n'est pas tous égaux. Si les défauts des hommes étaient comme les taches de la panthère, il y en a qui seraient tout noirs. Nous, on a des défauts qui sont plus visibles. Mais il y a des gens qui ne bégayent pas, mais qui ont plein de défauts. Donc, à un moment donné, on ne peut pas s'arrêter à ce genre de détails. Il faut prendre les gens pour plus pour leur qualité que pour leur pseudo-défaut. Et puis, peut-être que du fait de se mettre en retrait, j'en connais pas mal qui se sont enfermés dans les livres, sans faire des gens très instruits. Moi, je pense qu'une des actions doit être de sortir les becs du placard, parce qu'ils se cachent. J'ai l'expérience de gens très connus. Moi, je ne le savais pas. Mon vieux père, mon patron Alpha Blondy, m'a dit que lui, il est bègue. Il dit, tu me vois faire, you know, c'était ma façon. Ah. Il y a beaucoup de bègues qui trouvent des astuces pour se glisser. Il y a des gens qui étaient ministres, il y a des gens qui étaient chefs d'institution. Je crois qu'il y avait un roi d'Angleterre qui était bègue. Ils sont nombreux et ils réussissent. Il ne faut pas que les bègues se disent que je souffre de ce trouble-là et qu'au nom de cela, ma vie est fichue. Moi, je dis, chacun de nous naît avec le capital que le Tout-Puissant met à sa disposition. C'est à toi d'en faire ce que tu as envie de faire. Voilà.
Radio de la Paix, il est 11h.
Juste avant le top horaire, vous écoutiez un extrait du témoignage de l'artiste ivoirien Kadjim qui était reçu sur le thème du bégaiement sur un plateau télévisé. Par ailleurs, soulignons que Kadjim est auteur d'un recueil de nouvelles intitulé « Le petit garçon qui peinait à parler » sorti en 2012, une œuvre littéraire pour décrire le bégaiement. Et à sa suite, pour citer quelques célébrités bègues, nous avons par exemple le philosophe Aristote, les acteurs américains Julia Roberts, Bruce Willis, l'acteur français Gérard Depardieu, le physicien Albert Einstein, l'actrice américaine Marilyn Monroe. En Côte d'Ivoire, nous avons, et Kadjim l'a cité, le chanteur Alpha Blondy, l'artiste Kérosène, et j'en passe. Vous suivez à mes auditeurs le sujet de discussion et aujourd'hui nous parlons de la situation des personnes bègues en Côte d'Ivoire et bien sûr nous revenons avec vous Luc Djadji. On rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues en Côte d'Ivoire et vous avez dépeint la situation des bègues qui, selon vous, n'est pas très reluisante.
Oui, oui. Au fait, ce que le décideur politique, même la personne qui bégait, doit savoir est que le bégaiement n'est pas une fatalité. Les personnes qui bégaient le plus souvent sont très brillantes dans leur environnement. Et ils s'expriment comme ils ont une déficience au niveau de la communication. Ils mémorisent tout ce qu'ils font et ils aiment la perfection. C'est-à-dire que ce qu'ils doivent faire pour pouvoir s'exprimer, ce qu'ils doivent faire pour pouvoir se valoriser, ils le font bien. C'est pourquoi, dans notre jargon, nous disons que être bègue, ce n'est rien. Il faut accepter son bégaiement. Quand tu acceptes ton bégaiement, tu es encore plus libre, tu es plus à l'aise de t'exprimer. C'est pourquoi souvent ça nous fait mal quand tu veux passer un concours et que tu vois on met produit un certificat de bégaiement.
Il y a des concours
produit un certificat de non-bégaiement. Il y a des concours où on n'a pas besoin de certificat de non-bégaiement. Être un policier, le policier soit il est sur la route selon le service, il peut être sur la route, régler la circulation. Il peut être gendarme, ça ne veut pas dire que parce que tu bégais, qu'à tout moment tu vas faire usage de ton âme. Non. Une personne qui bégait, c'est une personne de réfléchir. C'est une personne qui réfléchit comme tout autre, qui a des sentiments, qui a des émotions, qui sait ce qui est bien, qui sait ce qui est mal. Qui est au même titre que la personne dite normale et à même de s'exprimer, d'apporter une plus-value. C'est quelqu'un qui a de la valeur.
Alors, au titre encore des difficultés, tout à l'heure avec Jean-Philippe Bocco, il a été question de l'accès limité aux orthophonistes.
Si.
Quelle est la parade, on va dire comme ça? Comment est-ce que justement ceux qui n'arrivent pas à avoir accès aux orthophonistes peuvent faire pour travailler à améliorer leur langage?
D'accord, merci bien. Il faut dire qu'au niveau même de l'association, initialement, c'était de créer un cadre de rencontre où nous, personnes qui bégayent, allons échanger autour de nos différents problèmes et essayer d'apporter, de nous entraider.
Mm-hmm. Pour des groupes d'entraide.
Des groupes d'entraide. Et c'est ce que nous avons mis en place.
Mm-hmm.
Nous avons mis en place des groupes d'entraide. Et la responsable même de ce groupe d'entraide était la présidente des femmes, Aébié.
Que nous avons eu.
Ce que nous faisions est que comme aujourd'hui, l'Internet est disponible, nous allons sur les plateformes avec les associations qui, à travers le monde, nous rentrons en contact avec ces associations qui nous envoient des ouvrages thérapeutiques. Et on lit et on essaie d'appliquer ce que ces ouvrages contiennent. Également parmi nous, il y a certains qui ont réussi à surmonter leur bégaiement. Ces derniers-là, nous les invitons et ils nous montrent comment est-ce qu'ils ont fait pour surmonter leur handicap. C'est le cas, par exemple, de Sekou. Sekou est une personne qui bégaye, qui a développé une méthode. Et cette méthode, elle marche très bien.
Laquelle?
Bon, au fait, il a... C'est d'abord psychologique. Psychologique.
Mm-hmm.
Donc, il a... Lorsqu'il te prend d'abord au niveau psychologique, il va essayer de te rassurer, de mettre toute la confiance. Parce que le problème de la personne qui bégaye également, c'est ça.
La confiance en soi.
Tant que la personne qui bégaye n'a pas une confiance en soi, vraiment, c'est difficile. Moi, je suis arrivé à franchir cette étape, comme je vous l'ai expliqué. Présentement, j'ai une confiance absolue en moi. Ce qui fait que, même au niveau de mon service, j'arrive à faire des présentations et même à participer, comme je suis dans un système au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, je participe aux communications dans les universités. J'en fais. Au niveau du service, quand il y a quelque chose à faire, mes amis ont confiance en moi, ils me donnent les présentations à faire. Et je le fais si bien parce que je suis arrivé à un niveau où, un, j'ai confiance en moi et tout ce que je fais, je me dis que je suis capable de. Et à partir de ce moment-là, je ne me mets pas en retrait. Et puis, c'est comme ce que j'ai dit, quand tu es une personne qui bégaye, il ne faut pas fermer la bouche, il faut pouvoir t'exprimer. C'est partout où tu arrives, il faut pouvoir pas t'imposer, mais au moins, il faut pouvoir prendre la parole pour
c'est
exprimer.
C'est à force de pratique qu'on peut s'améliorer.
Mm-hmm. Aujourd'hui, moi, dans toutes les associations où je suis, je ne me mets pas à marge. Je donne un tout petit exemple. Au niveau de Port-Boué, moi je suis à Vicam. Dans la communauté, au niveau de Port-Boué, la communauté à Vicam s'est organisée. Au sein de cette communauté, je suis le commissaire aux comptes. Il faut pouvoir prendre des responsabilités. Il faut pouvoir t'affranchir. Il faut pouvoir t'exprimer. Il faut pouvoir montrer à la communauté que c'est vrai, tu es une personne qui bégaye.
Mais qui peut apporter. Alors, au niveau de la phénopsie, vous parliez tantôt des groupes d'entraide qui ont été mis sur pied. Quoi d'autre comme action?
Il y a également les actions de sensibilisation.
D'accord.
Le plus, ces actions de sensibilisation, elles peuvent être animées par la communauté elle-même,
mm-hmm.
à travers des... comment on appelle des focus group, c'est-à-dire qu'au niveau de l'association, nous animons des focus group avec soit les nouveaux arrivants ou même avec les anciens. Et nous les stratégies que l'un a développées qui lui permettent de s'exprimer au mieux, il essaie de communiquer ces stratégies-là aux autres. Nous allons également au niveau des établissements pour sensibiliser...
Les établissements scolaires?
Oui, les établissements scolaires pour mm-hmm. sensibiliser les éducateurs. Et le plus souvent, l'accès à ces établissements-là, c'est difficile. C'est plus facile au niveau du public, au niveau du privé. Parce qu'au niveau du privé, lorsqu'on va, on s'adresse aux responsables de cet établissement, le plus souvent aux fondateurs. Quand le responsable, quand la décision qu'il doit prendre doit venir de sa hiérarchie. Il s'adresse au fondateur de l'établissement. Il nous rencontre, on échange. Et lorsque ce dernier, nous lui expliquons le bien fondé de cette action. Et lorsqu'il il accepte, nous faisons des campagnes, nous faisons de la sensibilisation auprès des enseignants quant aux attitudes à adopter face aux élèves qui bégayent. Ces actions-là, nous les menons avec M. Boko.
Jean-Philippe voilà, Boko.
M. Boko, Jean-Philippe, qui a décidé de nous accompagner dans toutes nos actions. Donc l'association également fait partie de la Confédération des organisations des personnes handicapées. Et donc, pour les grandes thématiques comme l'éducation, comme la santé, l'association également sert d'interface avec d'interface de discussion quant aux décideurs. Mm-hmm. Voilà, notre association est reconnue par exemple par la direction des personnes, la direction de la promotion des personnes handicapées. Et cette direction a besoin de prendre, a besoin de l'avis de certains élèves quant à l'handicap, nous sommes associés aux tribunes de discussion.
Mmh. Voilà. D'accord. Alors, petite recommandation, en tout cas, à tous ceux qui vous écoutent et qui se retrouvent peut-être dans une situation de qui souffrent de bégaiement. Qu'est-ce que, en tant que personne bègue, qu'est-ce qu'il faut faire face aux moqueries?
Ce que nous, en tant que leader, ce que nous pratiquons, c'est-à-dire quand tu es dans un milieu, il ne faut pas te cacher. C'est quand tu te caches que autrui découvre que tu es une personne qui bégaye. C'est en ce moment-là que les gens seront très, très attentifs à te regarder, à suivre tes gestes au petit pas et même à se moquer de toi. Donc partout où tu vas, où tu dois, par exemple, prendre la parole, tu signifies à la communauté que tu es une personne qui bégaye. Et tu leur dis d'être même indulgent. En ce moment-là, quand tu t'exprimes, celui qui a l'intention de se moquer de toi, cette personne-là va subir le gourou de la communauté. Parce que antérieurement, tu aurais déjà dit que tu es une personne qui bégaye. Tu le dis pour que déjà elle soit attentive à tout ce que... On te donne le temps de t'exprimer. L'autre chose qui le plus souvent dépeint l'image de la personne qui bégaye, ce sont les comédiens. C'est-à-dire qu'on affiche seulement que le côté négatif de la personne qui bégaye, parce qu'on veut faire rire toute une assemblée. Non. L'image de la personne qui bégaye peut être présentée autrement. Nous souhaitons que cette image-là soit présentée sous un angle positif. Sur la valeur de la personne qui se bégaye et non sur un angle ironique où c'est le côté négatif qu'on exprime, qu'on met en avant. Et quand ça est comme ça, c'est, nous, quand on voit vraiment, c'est comme si nous étions je vais un peu imager la chose, un peu comme quand on, par le passé, par exemple, quand le colon, il prenait le noir. Comme c'est une race qui n'avait pas vu auparavant, on le met dans une cage en grille au milieu d'un carrefour. Et puis bon, tous ceux qui passent regardent. Ah mais nous sommes blancs, ça c'est un noir, ah, il a des lèvres. Et quand c'est comme ça, c'est pas pour faire la promotion de la personne qui bégaye. Parce que la personne qui bégaye a des valeurs. C'est vrai qu'elle n'arrive pas à exprimer cette valeur, mais vit avec une personne qui se bégaye, que ce soit en couple ou bien en toute autre chose. Moi, dans mon service, il n'y a pas un collègue qui va me dire qu'il a demandé un service ou quand il sait que je peux pas, il peut te dire, ah, le collègue, ça, je ne suis pas à même de le faire. Mais quand je peux le faire, je le fais bien. Et c'est ça qui fait la particularité de la personne qui bégaye. Parce que elle a toujours tendance à bien faire et même à mieux faire ce qu'on lui demande.
Alors, que faut-il faire, quand on est face à une personne bègue? Parce que vous parlez de confiance en soi.
Non, là, ce que nous demandons aux personnes qui bégaient, eux-mêmes, la première des choses, c'est d'avoir confiance en tout ce qu'ils font. Parce que l'une des difficultés de la personne qui bégait et qui limite sa fluidité au niveau de la parole, c'est sa pète. C'est le fait de ne pas avoir confiance en elle. Non seulement le fait de ne pas avoir confiance en elle, le fait de vouloir...
Donc ça veut dire que la personne qui est en face doit mettre la personne bègue en confiance
en
aussi.
En confiance. Et que la personne elle-même, la personne qui bégait elle-même, ait confiance en elle-même. Une fois que ce facteur confiance est développé au niveau de la personne qui bégait, elle s'exprime plus aisément. Mais là, c'est quand la personne qui bégait elle-même n'a pas confiance en elle, elle aura tendance elle crée en elle une pression qui n'existe pas, le plus souvent qui n'existe pas. Mais du fait que autrui le regarde, il se pose la question immédiate, qu'est-ce qu'il va penser? Donc, on crée en nous-mêmes une pression qui ne devait pas être. Alors que nous devons plus avoir confiance en nous-mêmes et répondre ou même nous exprimer plus aisément. Mais le fait qu'on n'a pas cette confiance en nous-mêmes, crée en nous une pression qui, du coup, fait ressortir notre bégaiement. Voilà. Or, il faut d'abord avoir... Une fois que la personne qui bégaie a confiance en elle-même, elle s'exprime un peu plus aisément. C'est cette confiance que la personne doit avoir. C'est ce que nous demandons à la personne qui est bégaie. Ne pas toujours penser que quand on la regarde, c'est juste pour se moquer. Ou bien, lorsqu'elle va prendre la parole, on aura tendance à se moquer d'elle.
D'accord. Voilà. Alors, pour terminer, que souhaiteriez-vous qu'il soit fait pour améliorer la situation des personnes bègues en Côte d'Ivoire?
D'accord. Merci beaucoup. C'est une question vraiment essentielle. Pour améliorer la situation de la personne qui bégue en Côte d'Ivoire, nous souhaiterons que qu'il y ait des prises en charge à différents niveaux. D'abord, au niveau de l'éducation. Que le dépistage du bégaiement soit précoce pour éviter à nos enfants et éviter à nos enfants ce que nous avons subi. Dieu merci, les différents plaidoyers que nous avons menés ont abouti à la formation des orthophonistes en Côte d'Ivoire. Et la première promotion qui est sortie, comme Philippe Boko l'a si bien dit, ceux qui ont fait la formation, ils l'ont fait à titre privé. C'est pourquoi ils sont dans les structures cabinets.
Privées.
La deuxième promotion actuellement qui est en formation, qui va sortir bientôt, eux, ils font une formation à titre public, qui sont déployés dans les différentes formations sanitaires. Au niveau de la santé, aujourd'hui on parle de la CEMU. Quel sera le panier de soins de la personne qui bégaye? Ça, nous n'en savons pas. D'autant plus que aller vers un orthophoniste, c'est une spécialité. C'est pas une consultation de médecine générale. Nous souhaitons que dans le panier de soins, que le bégaiement, quelque chose soit fait pour la prise en charge de la personne au niveau des soins. Soins au niveau de la personne qui bégaye, c'est la visite d'un orthophoniste. Que ce soit dans le privé pour ceux qui ont les moyens, parce que le grand homme n'a pas de moyens. Au niveau des assurances, que l'orthophoniste, le coût d'une consultation chez un orthophoniste soit aménagé. Pour le grand homme qui ira au niveau du public, que la consultation au niveau des orthophonistes, vraiment, si ça peut être gratuit pour permettre à nos enfants, à nous-mêmes, de pouvoir aller plus aisément auprès de l'orthophoniste, que cela soit fait.
La consultation et aussi les séances de...
Les séances.
Mm-hmm.
Bon, à défaut, le coût. Il ne faut pas que ce soit une séance à 5 000. Moi-même, je ne peux pas payer. J'ai deux enfants qui bégayent. Or, le coût, le coût minimal, c'est-à-dire pour dire que les séances ont porté sur au moins 32. Il faut faire au moins une chose à 32 séances. Donc, imagine pour un enfant, 32 séances multipliées par 5. Tout en sachant que le père, s'il a un seul enfant, ça passe. Mais s'il a deux enfants, c'est coûteux.
D'accord. Vous avez parlé de trois niveaux.
Ouais, maintenant, il y a le niveau professionnel. Au niveau professionnel, nous disons aux décideurs politiques que ce n'est pas tous les concours qui méritent, qu'on justifie d'un certificat de non-bégaiement. Il y a des concours où on n'a pas besoin de produire un certificat de non-bégaiement. On dira que peut-être à l'enseignement, moi, mon professeur qui m'a appris en biologie à l'université, il était bègue. C'est quand je suis arrivé en licence que je suis que ce dernier-là est bègue. Ça dit que la personne qui bégait peut enseigner. Nous-mêmes, au moment où nous étions étudiants, nous donnions des cours dans les écoles chaudes privées. On s'arrange. Bon, on va pas avec tout pour... Comme Philippe l'a dit, au niveau du bégaiement, il y a le clonique et puis il y a le chaud tonique. Mais quand on est devant les élèves, on s'arrange à ne pas bégayer. Et on dispense les cours.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau et de ce qui ressort avec nos invités du jour. Les conséquences sociales du bégaiement sont significatives et peuvent inclure une faible estime de soi, un repli sur soi, des moqueries, des impacts sur la réussite scolaire et professionnelle. Comprendre ces implications est essentiel pour fournir un soutien adéquat et améliorer la qualité de vie des personnes bégaiement. Il est important de continuer à éduquer et sensibiliser pour éliminer les préjugés et soutenir les personnes bègues dans leurs efforts académiques, professionnels, en tout cas sur tous les niveaux. Pour aujourd'hui parler de la situation des personnes bègues en Côte d'Ivoire, nous étions avec Djadji Luc Gervais, le président de la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues en Côte d'Ivoire, FENOPSI, et de la même structure, Ayébié Magne Elisabeth et Jean-Philippe Boko, orthophoniste, par ailleurs vice-président des orthophonistes de Côte d'Ivoire, et puis l'artiste ivoirien Kadjim, rappeur de renom, affecté par ce trouble de langage, a partagé avec nous son témoignage. Merci à tous nos intervenants et merci à vous, amis auditeurs, de nous avoir suivis.
Maintenant tu dis ça suffit. Au début, tout est beau, tout est rose. Si c'est la conséquence, on était la cause.